Et maintenant, j'aimerais accueillir notre deuxième intervenant, Anne Neukamp. Anne Neukamp a étudié et est née à Düsseldorf, en Allemagne. Donc, en 1976, elle a étudié à la Kunstakademie de Düsseldorf, puis à la Hochschule für Bildende Künste de Dresde. Elle vit et travaille à Berlin. Son travail a été montré dans le cadre d'expositions personnelles nombreuses, par exemple au Kunstverein d'Oldenburg, au musée Wilhelm Haack à Ludwigshafen, à la Galerie Valentin à Paris, à la Galerie Gregor Bodnar à Berlin et Ljubljana, ainsi que dans le cadre d'expositions de groupes, notamment à l'Institut d'art contemporain de Berlin et à Columbia University de New York, ou encore dans le cadre de la Biennale de Prague. Je suis tout à fait ravie de l'accueillir parmi nous, très, très honorée qu'elle ait accepté de parler aujourd'hui d'un thème dont nous allons voir qu'il est extrêmement important, me semble-t-il aussi, après ce que nous venons d'écouter, pour essayer de comprendre l'importance et je dirais, mais Anne va l'expliquer bien mieux que moi, l'efficacité de l'image dans la peinture. Anne, c'est à vous. Merci encore.
Bonjour, mesdames et messieurs. J'ai intitulé mon exposé à ce colloque sur la fabrique de la peinture, l'image efficace. Ce titre m'est venu spontanément à l'esprit, avant même que je n'aie rédigé mon exposé, et son caractère emblématique m'a tout de suite plu. L'image efficace renvoie en l'occurrence à mon utilisation de la matière image et à ce que je produis à partir des univers d'images à orientation fonctionnelle de la communication visuelle. Et elle renvoie également à la question relative à une certaine fonctionnalité ou économie de l'image. Mais j'aurais pu tout aussi bien formuler ce titre à la forme interrogative ou encore prendre le contre-pied, en prenant par exemple l'image inefficace ou peut-être l'image comme détour. Voilà qui m'amène directement à évoquer une certaine polarité et une dichotomie qui traverse mon travail en filigrane sur différents plans, en révélant constamment des contrastes et en faisant apparaître une simultanéité de différents pôles. Je voudrais tout d'abord formuler quelques questions auxquelles mes travaux ne sont aucunement censés fournir une ébauche de réponse, mais qui en font constamment le tour. Qu'est-ce qu'on attend d'une image? Et quelle est son intention? Comment est-ce que les deux effets se conjuguent? Quel est le rapport du médium peinture à la production contemporaine des images? Est-ce qu'il existe des analogies avec certains mécanismes de représentation? Que signifie l'imitation? Est-ce qu'il existe une image lente et une image rapide? Est-ce que la peinture aujourd'hui est un détour? Mon exposé comporte grosso modo deux volets accompagnés d'une série plus ou moins chronologique d'images. Dans le premier volet, je vais me référer à des travaux des années 2009 à 2011 pour évoquer plus en détail ma technique de peinture et éclairer mon approche du développement d'un tableau. Dans le deuxième volet, j'aborderai le matériel image que j'utilise. Il s'agira moins des aspects de procédés de peinture. Je souhaite plutôt mettre l'accent sur mon intérêt pour ces images techniques et efficaces en illustrant les différentes étapes de leur transformation et de leur traitement dans mes peintures. D'une façon générale, j'ai décidé de renoncer à des matériaux additionnels tels que les photos d'œuvres non terminées ou d'instantanés de situations d'atelier. Hormis le fait que je ne photographie presque jamais mon atelier, il y a là des raisons qui tiennent à la nature de mon travail, mais je reviendrai sur ces raisons plus tard. J'espère donc pouvoir me passer de preuves visuelles supplémentaires pour faire comprendre mon procédé de travail sur lequel ce colloque se propose d'attirer l'attention. Commençons donc par le premier tableau. Ce travail date de 2009. Les dimensions sont de 200 cm sur 150 cm et il a pour titre Springer. Les restes d'une figure que l'on peut y deviner sont des réminiscences d'un motif trouvé sur une sticker. Il s'agit d'une mascotte traitée à la manière d'une bande dessinée, un cheval qui rit et qui fait signe aux spectateurs. Je pense qu'il s'agit de la mascotte d'une équipe de foot de la province française. Cette figure est enserrée entre deux surfaces diagonales qui constituent une sorte de forme extérieure de type bulle ou un cadre qui, de par ses contours, pourrait évoquer une corporalité ou une étendue spatiale. Le titre de ce tableau est, comme souvent pour mes tableaux, polysémique. Il y a plusieurs associations d'idées possibles en interaction avec l'image. En allemand, le terme Springer, littéralement sauteur, a plusieurs acceptions. Dans le jeu d'échecs, il s'agit du cavalier évoquant un cheval, un des seules pièces qui a la possibilité d'occuper n'importe quelle case de l'échiquier. C'est aussi la seule pièce qui ne soit pas bloquée dans son déplacement par les autres pièces. Un springer peut aussi être une personne qui, au pied levé, remplace un salarié, par exemple en cas de maladie, un bouche-trou en quelque sorte. Ce tableau me semble être une bonne entrée en matière pour notre discussion, car il illustre très bien une certaine réorientation de mon travail. Avant, mes travaux avaient également des surfaces utilisées de façon intense. Ils étaient toujours multicouches, mais dans l'ensemble, ils avaient plutôt un caractère de paysage abstrait. Dans le tableau Springer, c'est la première fois qu'une figure plus ou moins nette entre ou saute dans l'espace image. Cette phase de mon évolution a connu également une modification du format. Pendant longtemps, j'avais travaillé principalement en petit ou moyen format. Cette fois-ci, il s'agit d'un format se rapprochant de la taille réelle d'un corps humain qui apparaît donc en grandeur nature. J'étais intéressée par un jeu avec les échelles, une sorte de décalage des tailles à l'instar de ce que pratique souvent la publicité, mais aussi le pop art, et en tant que stratégie de déformation, d'exagération et d'abstraction. La transformation d'une petite image stylisée et anodine en quelque chose qui nous fait subitement face, pratiquement à l'échelle 1. Cela se fait avec une grande distance et ironie par rapport à l'image initiale. La surface friable et délavée confère au tableau une présence physique et s'oppose au caractère parfait du graphisme technique de l'image du sticker. J'ai construit les travaux de cette époque avec beaucoup de couches, la plupart du temps pendant une période assez longue. Les surfaces se caractérisent par une haptique forte. Elles gardent en elles les traces de couches et de recouvrement et du délavage. Ce caractère usé de la surface et la coloration en teinte intermédiaire, plutôt mate, sont le résultat du processus de genèse du tableau. Il a toujours été important pour moi lors du développement ou de l'approche d'un tableau, d'intégrer dès le départ une certaine ouverture quant à l'issue du travail. Je veux dire que je n'ai jamais pu développer l'idée d'un tableau de façon purement intellectuelle pour passer ensuite à la simple réalisation en peinture. D'une part, cela n'a jamais fonctionné, ou les résultats étaient très décevants, et d'autre part, cela m'a jamais vraiment intéressé s'agissant du médium peinture. Une raison, entre autres, pour laquelle j'évolue dans ce médium et pour laquelle j'estime que cela est censé en tant que pratique, est justement la possibilité de développer un tableau que l'on n'a pas pu penser et se représenter d'avance. Dans aucun médium autre que la peinture, les moments de l'action et de la réflexion, se rapprocher et reculer, ne me semblent être aussi proches l'un de l'autre, voire se situer pratiquement sur le même plan. De plus, cette pratique offre la possibilité temporelle de quitter le présent aussi bien pour le futur que pour le passé. Je voudrais citer ici un extrait du livre « Geste, essai d'une phénoménologie » de Willem Flosser, philosophe de médias. Ici, il a également écrit sur le geste de peindre. Il me semble que, dans le cadre de ce colloque, cet éclairage phénoménologique a tout à fait sa place. De plus, cette description qui porte sur le moment de la simultanéité de l'action et de la réflexion, ainsi que sur la fracture du présent et du futur, est très pertinente. Je cite. Le geste de peindre est un mouvement qui s'analyse lui-même. Des faces spécifiques du geste, par exemple un pas en arrière spécifique par rapport à la toile ou un regard spécifique, signifient l'autocritique, l'auto-analyse. On n'a pas besoin des concepts métaphysiques tels que l'esprit du peintre qui flotte quelque part au-dessus du geste pour expliquer ces phases. Bien que ces concepts s'enracinent profondément dans nos habitudes de pensée et déforment nos observations. Ces phases sont visibles dans la configuration concrète du geste lui-même. Le geste n'est pas seulement une saisie du futur à partir du présent, mais aussi une anticipation du futur dans le présent et de son rétroprojet dans le futur. Le geste implique un contrôle et une reformulation permanente de sa propre signification. Peindre est un mouvement manifestement intentionnel qui indique du présent vers le futur. Monsieur X devient réel dans ce mouvement en tant que peintre, car il devient une saisie vers le futur, à savoir vers un tableau à peindre. Il devient réel car il indique quelque chose. Et de cette manière, il devient vivant pour lui-même car le geste de peindre est un geste auto-analysant et ainsi un geste conscient de soi. Ce qui me plaît particulièrement dans cette pensée développée par Flusser est qu'avec cette approche purement phénoménologique du geste, il enlève en quelque sorte le pathos de l'acte de peindre et qu'ainsi il relativise l'expression mystifiée ou l'intention du peintre, c'est-à-dire la charge du geste. Mon mode de travail comporte toujours une fin plus ou moins ouverte et il porte en lui une certaine façon de procéder par pas en avant et pas en arrière. Ces pas en avant et en arrière, sous forme de couches peintes, deviennent possibles car je travaille avec des techniques mixtes et des temps de séchage différents. J'utilise la peinture à l'huile et la détrempe à l'œuf. Cependant, je n'utilise pas ces techniques comme le faisaient traditionnellement les anciens maîtres, à savoir dans un déroulement du maigre vers le gras, d'abord la détrempe à l'œuf et ensuite des glacis de peinture à l'huile. En fait, Je mélange les deux techniques de façon non protocolaire et je travaille en quelque sorte avec les défauts techniques qui en résultent. Il m'arrive de passer à un délavage de toute la toile avec des solvants. Les couches de peinture à l'huile sous-jacent qui ne sont pas totalement sèches se détachent alors partiellement ou complètement et elles se mélangent en partie aux couches de la détrempe à l'œuf qui sont déjà sèches. Ce procédé me permet justement d'accéder en partie à des couches qui ont été peintes précédemment et qui n'étaient déjà plus visibles. Les motifs et formes peints s'interpénètrent tellement qu'à la fin, on ne sait plus précisément ce qui a été réalisé en premier ou sur quelle couche on se trouve. Tout se contracte en quelque sorte sur un même plan. Il s'agit donc d'une action permanente d'ajout, d'enlèvement, de délavage et de mélange qui finit par aboutir à une image, la plupart du temps de façon inattendue et non prévisible. Certes, je ne le fais pas de façon totalement arbitraire, car il y a bien des directions que je choisis et des motifs et formes que je souhaite combiner d'une certaine façon, mais il n'empêche qu'il reste toujours une part de jeu avec le hasard ou, disons, avec l'autonomie de matière. C'est finalement une sorte d'astuce ou une stratégie pour me tromper moi-même et déjouer mes attentes vis-à-vis de la peinture ou l'image pour les contourner. Je m'arrête quand le tableau a atteint un état intermédiaire, un état limite entre l'état provisoire et le tableau entièrement façonné et fini. Il se produit alors souvent une simultanéité entre surface et forme, entre premier plan et arrière-plan, et aussi entre moment et processus. Alors que l'espace de l'image et le langage de forme des travaux de 2009 s'inscrivait plutôt en ligne et surface et que la spatialité résultait de ce processus de recherche de la composition, à savoir justement de ce genre de décortiquage. Pour les travaux suivants de 2010 et 2011, je me suis intéressée de plus en plus au jeu des contrastes entre les différents idiomes picturaux de l'huile et de la détrempe. La texture sèche poussiéreux de la détrempe à l'œuf qui induit plutôt une utilisation surfacique et alors en opposition avec la peinture à l'huile, avec son caractère plus saturé, fluide ou crémeux, avec laquelle on peut créer des dégradés de couleurs douces ou des parties illusionnistes. J'ai commencé alors à opposer aux parties mates et friables de la détrempe à l'œuf des éléments de peinture à l'huile réaliste ou donnant l'impression de spatialité. Là encore, je m'intéresse à un état intermédiaire, un moment où ces différentes techniques de peinture s'entrechoquent sans que l'une ou l'autre ne l'emporte. À l'instar de la démarche du collage ou montage, on joue différents éléments les uns contre les autres pour les mettre dans un champ de tension qui est alors susceptible de basculer dans n'importe quelle direction, de la corporalité vers le plat, de l'abstrait vers le concret, du gris vers le coloré, etc. Les éléments et motifs utilisés, à l'instar de la mascotte d'Ange Springer, proviennent des situations contextuelles de l'imagerie populaire comme par exemple les caractères d'imprimerie, la bande dessinée, la publicité, mais également des extraits ou fragments de l'héraldique ou d'anciennes gravures. Sur les tableaux, il en reste seulement des formes suggérées ou des fragments, comme ils subissent une transformation par décalage des grandeurs, par retouche, par délavage ou par négation. Le jeu avec la surface et les morceaux réalistes, ainsi que les éléments corporels, est un peu similaire. Je les comprends plutôt comme suggestions ou citations fragmentaires qui ne se dissolvent jamais totalement ou qui ne procèdent pas d'une séquence logique pour l'œil. Ils s'annulent en partie, en rendent le premier plan en l'arrière-plan et l'arrière-plan moins lisible, comme par exemple dans ce tableau Fringe de 2011. Le petit détail de la languette qui est suggéré de façon réaliste en bas de la forme circulaire, cette dernière devient un cadre et en même temps une surface que l'on peut retirer comme une sticker. L'illusionnisme ici ou là promet quelque chose que l'on ne peut pas vraiment réaliser dans la composition. Il s'agit donc toujours d'un jeu avec des habitudes perceptives, avec une promesse spatiale qui retombe en même temps toujours dans la bidimensionnalité de la surface du tableau. Maintenant, je voudrais parler un peu plus en détail des éléments d'image. J'ai mentionné déjà que jusqu'en 2011, début 2012, j'ai puisé d'une façon générale dans l'imagerie populaire que me servait de source. Ces motifs venaient de différents domaines et aussi de différentes époques. Depuis fin 2012, j'ai réduit quelque peu la sélection de mes motifs en mettant l'accent sur l'imagerie contemporaine. Je voulais d'une part me focaliser et d'autre part contrecarrer une certaine ère nostalgique qui se dégageait des tableaux réalisés auparavant. J'ai donc réduit le choix de motifs dans le temps et en termes de contenu, j'ai réduit le nombre de couches concrètes et j'ai essayé de placer le jeu avec ses strates sur un niveau plus conceptuel et de le déployer autrement dans le tableau. Passons d'abord à mes visuels de départ. Je me suis longtemps posé la question de savoir comment intégrer au mieux cet aspect dans mon exposé, sous quelle forme montrer le matériel pictural sans discours didactique et sans être obligé de mentionner pour chaque tableau quels détails, publicité, société, etc. se cachent derrière. En effet, je ne souhaite pas citer expressément une société donnée, un certain logo ou un élément similaire. Il s'agit plutôt d'un traitement phénoménologique de ce type d'image et des mécanismes concernant sa représentation. J'ai donc préparé un petit fichier GIF animé dans lequel j'ai traité quelques images de mes archives. Vous pouvez le considérer comme une sorte de folioscope de mes motifs. Les éléments superposés ici comme des feuilles ont, pour la plupart, déjà subi une rotation ou une modification par le biais d'un trait avec Photoshop ou une autre modification, voire un agrandissement à l'aide d'un copieur ou scanner. Il en résulte que les raisons sociales ne sont pratiquement plus lisibles et, en partie, les éléments sont séparés de leur environnement initial. Je les ai extraits de mes archives sans aucun classement et ils ont été déposés les uns derrière les autres dans ce fichier GIF. D'une façon générale, ces images procèdent d'une certaine efficacité et fonctionnalité. Elles fonctionnent en partie comme des abréviations picturales qui marquent de façon efficace la mémoire. Elles sont vite reconnaissables. On les rencontre partout et tout le monde connaît les codes picturaux avec lesquels ils opèrent. Ces éléments me servent de vocabulaire et je m'intéresse à certains phénomènes de codes picturaux actuels et des effets visuels qui sont très présents dans notre quotidien de la communication visuelle du fait de programmes de dessin numérique. J'essaie d'intégrer dans mon clavier pictural les habitudes visuelles dont ils procèdent et les mécanismes de représentation avec lesquels ils opèrent. Il s'agit alors, par exemple, de la gradualité des différents plans picturaux, des perspectives déformées ou impossibles et des imbrications. Il y a aussi le jeu avec les traits de lumière et notamment les suggestions d'une tridimensionnalité corporelle. À cela s'ajoutent les dégradés de couleurs, les ombres, les surfaces métalliques ou liquides, etc. Sans cesse, le caractère d'imprimerie, dans le passage du caractère d'imprimerie vers le pictogramme, ou bien l'écriture devient un symbole graphique, comme par exemple dans le cas d'un logo. S'agissant de ces mécanismes de représentation, il existe diverses analogies avec ceux de la peinture. Pour la question de la simulation d'une tridimensionnalité, on pourrait par exemple rappeler l'anecdote perpétuelle et cliché de la compétition de peinture dans l'Antiquité entre Zeuxis et Parrhasios. Dans cette compétition avec Parrhasios, Zeuxis réussissait à peindre des raisins de façon si convaincante que des oiseaux venaient pour essayer de les picorer. Parrhasios présenta alors à son rival un tableau sur lequel on pouvait voir un rideau. Zeuxis, impatient, demanda que l'on tire ce rideau. Parrhasios savait alors qu'il avait emporté, car il avait réussi à tromper Zeuxis, puis que le rideau était seulement peint. Aujourd'hui, dans notre environnement d'image, surtout numérique, il se pose évidemment la question relative à la fidélité à la nature et ce que cette fidélité à la nature pourrait être ici et si elle est tout bonnement possible. Ces images évoquent souvent une spatialité et, contrairement aux raisins ou aux rideaux, cet espace n'a pas pu être confronté à la réalité ou à un objet concret. Il ne s'agit probablement pas de la représentation d'un objet qui, dans la réalité, a une étendue spatiale, mais plutôt d'une projection d'espace. On pourrait également parler des surfaces imaginaires, ce qui nous ramène de nouveau à un concept de Wilhelm Flusser. Dès les années 80, Flusser avait déjà souligné la différence fondamentale entre les images traditionnelles et les images techniques, à savoir celles de la photographie, de la télévision, des supports imprimés et les images numériques qui commençaient à se développer. Il a développé l'idée selon laquelle les images techniques émergent des textes, c'est-à-dire des computations de notions et de processus de calcul, et qu'elles sont donc fondamentalement différentes des images traditionnelles qui relèvent de la contemplation et de l'imagination. Il parle à ce propos de vecteurs de signification inversés. Je cite « Que signifie une image technique ?» est une question mal formulée. Les images techniques ne représentent pas quelque chose, bien qu'elles semblent le faire, mais elles projettent quelque chose. La signification des images techniques ne les procède pas, les images ne portent rien en elles-mêmes, mais elles produisent de la signification dans la situation être regardé. S'étant détachées de la contemplation, elles ne permettent pas une lecture du monde, pas de compréhension sur le monde, mais elles sont des messages programmés qui programment à leur tour le spectateur. Il a détaillé cette idée dans son livre « Vers l'univers des images techniques » de 1985. Je puise ces images à orientation fonctionnelle dans différentes sources et elles subissent différentes phases de transformation. Parfois, je prends la matière brute, des stickers, des pages de magasin, pages imprimées, et je m'en amuse dans le copy shop pour la fragmenter, modifier sa taille, procéder à des décalages, etc. Ou bien je travaille sur ordinateur pour modifier partiellement des éléments, pour les tourner, les sortir de leur contexte initial, les découper, etc. Je plonge donc dans ce monde des images et j'essaie de tout d'abord, sans jugement esthétique, d'y nager et de les laisser agir sur moi. Ce faisant, j'ai créé beaucoup de modèles et motifs que l'on ne retrouvera pas forcément dans le tableau final. Je comprends ces archives comme un vocabulaire potentiel qui est à ma disposition au cours de l'acte de peindre. Cette première approche m'amène également souvent à des idées visuelles qui peuvent plus tard émerger ici ou là, et c'est à ce stade que commence un processus de décalage, d'abstraction, qui se prolonge et s'aiguise ensuite sur la toile. Les formes se fragmentent, se superposent, se confrontent, leur taille se modifie, etc. Je travaille les éléments jusqu'au point où ils ne délivrent plus leur message initial, leur contenu programmé, leur évidence, mais ils continuent à rappeler en creux leurs origines. Je travaille les éléments jusqu'au point où ils ne délivrent plus leur message initial, leur contenu programmé, leur évidence, mais ils continuent à rappeler en creux leur origine sans toutefois véhiculer un contenu déclaratif. Les différents éléments ne sont plus que des suggestions qui s'insèrent dans la globalité de la structure de l'image où ils déploient leur propre logique et leur propre finalité. La décision de commencer par tel ou tel élément est souvent intuitive. Ce sont parfois des aspects formels qui m'intéressent, par exemple une certaine ligne fluide, un certain attribut, but ou une configuration cliché. Certains motifs reviennent de manière plus récurrente, comme par exemple ces surfaces fluides ou formes galbées qui font penser à une ligne tracée d'une seule coup de pinceau ou à main libre. Il m'arrive de doubler un élément pour créer une partition de l'image et lui donner un rythme. Dans le cas de Swerve de 2013, ce tableau-là, l'élément, un signe de séparation tridimensionnelle, est duplié et légèrement décalé. Les deux, ensemble, forment pratiquement une diagonale, une figure géométrique simple qui part du coin supérieur droit pour aller jusque dans le coin inférieur gauche en subissant une interruption ou un croisement par une forme liquide et transparente, genre tache. Dans le tableau Double, il y a de nouveau une duplication avec en plus un transfert spéculaire et une rotation de l'élément qui crée une partition de l'espace d'image. En ajoutant une surface liquide du type écran de display, on crée un effet pictural qui produit une situation visuelle faisant subitement apparaître une empreinte figurative où l'on pourrait imaginer différentes choses. Cela peut aller d'une saucisse de moutarde au bord d'une piscine jusqu'au narcisse qui voit son visage se miroiter dans l'eau. J'essaye toujours de travailler avec un nombre aussi limité que possible d'éléments. Si ces éléments sont réunis dans le tableau de manière à obtenir une composition visuelle qui stimule la capacité de représentation ou l'imagination, qui offre donc une solution pour le tableau, c'est souvent l'aboutissement d'une longue phase de tâtonnement. Parfois, je suis presque sur le point d'abandonner, de tout repeindre ou d'enlever la toile de son cadre. D'ailleurs, je m'y emploie souvent et parfois il se dégage quelque chose à partir de cet état lorsque, en ayant déjà renoncé au tableau, je joue encore un petit peu sans aucune intention précise. Cela peut engendrer des surprises qui ouvrent subitement des nouvelles perspectives et qui s'imposent alors à moi sans que je sois en mesure de savoir précisément pourquoi. Et je pense que cet état ne se produirait pas si on n'avait pas essayé plusieurs choses avant, si l'on n'avait pas cheminé par d'autres possibilités, si on n'avait pas pris ce détour. Les angles de vue jouent toujours aussi un rôle assez important. Il s'agit de la question de savoir comment le regard est conduit sur la toile. La partition de l'espace et la disposition des éléments ainsi que les lignes provoquent souvent des mouvements circulaires qui font que le regard ne s'arrête pratiquement jamais sur un endroit précis. Il reste constamment en mouvement. Cela fait penser à l'idée du ruban de Möbius. Ce tableau, Condition, on y retrouve deux mouvements circulaires différents du regard. D'une part, sur la surface, sous la conduite des quatre éléments tournés que l'on pourrait interpréter comme la lettre C, un fer à cheval ou une nouille. En revanche, la partie verte peinte de façon illusionniste avec ses ombres, renvoie à l'extérieur de la toile et fait tourner le regard tout autour du tableau. Il se produit ici un croisement de deux mouvements, à savoir la circulation sur la surface et la circulation dans la profondeur. Les deux mouvements tournent autour de la surface vide de la toile qui, dans un premier temps, n'indique pas d'espace et qui souligne l'état suspendu ou sans dimension des éléments. Cet arrière-fond porte en lui des traces de l'action, toutefois sans indiquer lui-même un espace imaginaire et sans avoir de caractère représentatif. Ces différents éléments d'image et plans qui agissent sur ce terrain de jeu sont souvent imbriqués de façon non logique. Ici, dans Curl de 2013, cet entrelacement intervient dans le concept de l'image dans l'image. Le carré de la toile, cette délimitation extérieure concrète du tableau, est rappelé visuellement au centre sous forme d'évidement carré et est souligné par l'ombre que cet évidement porte sur l'arrière. Dans ce cas aussi, les rapports entre le premier plan et l'arrière-plan ne sont pas clairs et la situation factuelle des différents plans est plutôt irritante pour l'œil. Les deux motifs qui laissent encore entrevoir leur provenance de lettres d'imprimerie s'entrelacent ici pour former la globalité de l'image qui évoque peut-être des souvenirs d'une composition constructiviste. Ce travail de 2014, intitulé Snatch, présente également cette situation de l'image dans l'image. Dans ce cas, la surface vide de la toile, juste parcourue de restes de traits de pinceau, est encore plus présente. À cela s'ajoutent des motifs qui ont un caractère de cliché ou une charge psychologique, comme ces cordes qui s'enroulent autour des plans d'image imaginaires, et la main stylisée, fortement simplifiée, sans que l'on sache si elle veut présenter quelque chose ou si elle s'apprête à prendre un objet qui, en l'occurrence, n'est pas ou n'est plus présent. Je voudrais finir mon exposé avec ce tableau récent, Plate, de cette année. Ici, nous avons encore une fois un entrelac complexe de différents idiomes picturaux et des motifs à charge différente et provenant des situations contextuelles diverses sous forme d'un méandre. Plate, en anglais, veut dire tresse en français. Les cordes conduisent le regard devant et derrière cette tresse sous forme de boîte qui est remplie ou déposée à l'aide d'un motif représentant deux traits de pinceau apparemment spontanés et expressifs, tout en été stylisé. Ce motif stéréotypé, symbole de l'apparente individualité de l'artiste, fut déjà questionné dans le contexte d'une société de production de masse par Roy Lichtenstein dans ses brushstroke paintings. Je voudrais ici, de façon auto-ironique, faire le lien encore avec le geste de peindre. Compte tenu de l'efficacité des productions d'images numériques avec les techniques contemporaines, le geste pourrait avoir un caractère suranné, inefficace, voire ridicule. Mais au moins, ainsi que l'a bien décrit Flusser dans ses observations, il est auto-analysant et par là même conscient de soi. Merci.